Votre vie ressemble à une série qu'on a vue beaucoup sur les réseaux.
So much of what you see.
Ce que vous voyez au cinéma, c'est une caricature.
Back in 2019, Apple gave a straight-to-series order to a CIA drama based on the experiences of a real-life agency operative, Amaryllis Fox.
Welcome, Amaryllis Fox.
It is a great pleasure. Thank you.
Amaryllis Fox est aujourd'hui une habituée des plateaux de télé américaines. Régulièrement invitée pour parler de ses livres, de ses actions caritatives ou pour partager ses convictions pacifistes. Elle-même présente sur Netflix une série documentaire consacrée au business de la drogue. Et quand cette jolie blonde aux cheveux longs, genre hippie chic, se marie avec un riche héritier au sourire ravageur, Robert Kennedy Jr., le troisième du nom, l'événement fait le bonheur des Gazette People. Mais cette vie en pleine lumière n'a pas toujours été la sienne. En 2019, cette quasi-inconnue faisait sensation avec un livre où elle révélait que pendant près de 10 ans, elle avait travaillé pour la CIA. Le livre, Undercover, avoir 20 ans à la CIA, est sorti en 2020 chez Lattès dans sa traduction française. Amaryllis Fox appartient à cette génération de jeunes Américains qui, après le traumatisme du 11 septembre 2001, ont décidé de s'engager pour leur pays quand ils se lançaient dans une guerre sans merci contre Al-Qaïda et ses alliés. En 2002, alors qu'elle est encore étudiante, la CIA la recrute.
Mesdames et messieurs,
welcome.
Bienvenue
to the CIA.
À la CIA.
Vous pouvez jouer un rôle pour protéger notre nation. Débutez une carrière à la CIA et faites pour votre pays plus que vous n'aviez jamais rêvé de réaliser.
Il y a seulement 24 ans, Amaryllis sera dans l'histoire de la CIA la plus jeune femme à intégrer le corps d'élite de la maison, le service des clandestins. Ceux qui partent sous de fausses identités, espionnés aux quatre coins du monde, souvent dans des pays hostiles ou des zones de guerre. Amaryllis, elle, partira en Chine, officiellement comme marchande d'art. En réalité, pour traquer en Asie les terroristes et ceux qui leur vendent des armes. Entre Shanghai, Karachi et Bangkok, une existence à 100 à l'heure, exaltante, avec chevillée au corps l'obsession de déjouer des attentats. Mais une existence également dangereuse et schizophrénique, où Amaryllis, à chaque instant, risque sa vie ou tout simplement son équilibre psychique, affectif et familial. Car dans l'aventure, la jeune femme a entraîné son mari et même son bébé. Une première à la CIA.
France Inter, Stéphanie Duncan, Espion, une histoire vraie.
Amaryllis Fox est née à New York en 1980, dans une famille anglo-américaine, bourgeoise, cultivée, aimante, qui voyage régulièrement entre l'Europe et les États-Unis. Une enfance protégée et joyeuse, en apparence sans problème. Difficile d'imaginer que cette petite fille qui aime lire des histoires à ses nounours deviendra un jour espionne. Mais à y regarder de plus près, Amaryllis a développé très jeune la conscience que la vie ne tient qu'à un fil et que le vaste monde est parcouru, c'est peu de le dire, d'antagonismes violents. France Inter, 22 décembre 1988.
L'explosion en vol au-dessus de l'Écosse du Boeing 747 de la Paname a fait au moins 275 morts, dont une quinzaine d'habitants du village écossais de Lockerbie. La thèse de l'attentat semble bien se préciser.
L'avion à destination de New York ramenait chez eux de nombreux Américains pour les fêtes de Noël. Il n'y aura aucun survivant. Parmi les victimes de l'attentat libyen, il y a une petite fille, Laura, la meilleure amie d'Amaryllis, morte avec toute sa famille. D'abord enfermée dans sa douleur, Amaryllis, qui n'a que 8 ans, veut comprendre. Loin des contes de fées, elle commence à prêter attention aux événements du monde et aux personnages qui en tirent les ficelles, les Kadhafi, Reagan, Gorbatchev. Thatcher.
Cette explosion de joie, c'était celle des Berlinois de l'Est cette nuit après l'annonce par les autorités de l'ouverture des frontières.
Et en 1989, comment la petite fille devant sa télévision pourrait-elle rester insensible aux aspirations des peuples à la liberté, qu'elle soit écrasée place Tiananmen à Pékin ou victorieuse à Berlin? Et 10 ans plus tard, c'est la même Amaryllis, encore au lycée, qui se prend de passion pour Aung San Suu Kyi, la figure en Birmanie de l'opposition à la junte, qui vit assignée à résidence. À 18 ans, Amaryllis, au lieu de commencer l'université, part en Thaïlande et s'engage comme bénévole dans un camp de réfugiés birman, situé dans la jungle près de la frontière. Une expérience qui se révélera décisive et pleine d'enseignements pour la future espionne. Sur place, la jeune américaine se lie d'amitié avec des dissidents birmans auxquels elle décide d'apporter son aide. Elle va entrer clandestinement en Birmanie, pays alors interdit aux touristes et à la presse internationale, afin de rendre compte de la mobilisation anti-junte à Rangoon, la capitale, et si possible d'approcher la célèbre opposante. Se faisant passer pour l'épouse d'un homme d'affaires américain, Amaryllis Fox, avec un mini magnétophone dissimulé dans son sac, réussit à entrer en Birmanie. Et le 15 septembre 1999, son rêve se réalise. À l'insu de la police, elle rencontre Aung San Suu Kyi. Quelques mois plus tard, dans des conditions aussi périlleuses, la journaliste de France 2, Maryse Burgot, réalisera une interview de la célèbre prix Nobel de la paix.
Une frêle silhouette, mais un cauchemar pour la junte militaire. Aung San Suu Kyi incarne à elle seule la lutte pour la démocratie en Birmanie. Au point que les autorités de Rangoon nous ont refusé des visas pour l'interviewer. C'est donc clandestinement que nous l'avons rencontrée.
Les autorités ne se contentent pas de mettre en prison les membres actifs du parti ou les sympathisants du mouvement démocratique. Ensuite, ils commencent à harceler leurs familles respectives. Et ils leur rendent la vie pas seulement difficile, mais presque impossible pour certaines d'entre elles.
Pendant qu'Aung San Suu Kyi est interviewée à l'intérieur du siège de son parti politique, des hommes se sont postés à l'extérieur. Ce sont des agents de renseignement en civil. Toute personne, birmane ou étrangère, vue ici sera photographiée, suivie et fera l'objet d'une enquête. Pour ne pas se faire confisquer les cassettes à l'aéroport, il faut donc les faire sortir clandestinement.
Pour sortir du pays le message qu'elle a enregistré, Amaryllis Fox suivra le conseil avisé d'Aung San Suu Kyi elle-même. Cacher la bande sonore dans son vagin. Mais la jeune américaine, arrêtée peu de temps après par la police, vivra de longues heures d'angoisse, redoutant d'être torturée et découverte. D'autant que sa famille ne sait rien de son escapade birmane. Mais Amaryllis sera finalement relâchée et pourra quitter le pays. Avec toujours en elle le précieux document. Et quelques jours plus tard, le message politique d'Aung San Suu Kyi à son peuple sera diffusé en ondes courtes depuis la Thaïlande. Pour la plus grande colère des militaires birmans et la plus grande fierté d'Amaryllis Fox, 18 ans, qui, sans le savoir, vient de réaliser sa première d'une longue série d'opérations secrètes. On peut imaginer le dépaysement ressenti par Amaryllis Fox quand elle débarque à Oxford, en Angleterre, pour entamer des études de droit international. Le décalage est trop grand. Très vite, la jeune fille déprime. Après une période difficile, elle prend la décision qu'une fois terminées ses études, elle retournera en Thaïlande aider les réfugiés birmans. Mais les choses ne se passeront pas comme prévu.
« This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers.
Okay, ma'am. I got an aircraft 6 miles east of the White House.
Les deux tours du World Trade Center en plein centre de New York ont en effet été la cible de ce qui semble être un double attentat terroriste. À 8h43, heure locale très précise, un premier avion s'est écrasé sur la première tour du bâtiment. Vous le voyez, la première tour qui était en flammes. 18 minutes plus tard exactement, un deuxième avion est venu percuter de plein fouet la deuxième tour du World Trade Center.
11 septembre 2001. Amaryllis Fox est à Washington en vacances dans sa famille quand elle découvre à la télévision, comme le monde entier, les images des attentats du World Trade Center et du Pentagone. C'est la guerre, se dit-elle. Le lendemain, elle part à New York au Ground Zero et vient en aide aux secouristes. Pour la première fois de leur histoire, les États-Unis sont victimes d'une attaque d'envergure sur leur sol. Le 20 septembre, George Bush prononce un discours martial devant le Congrès.
Il est entré comme un boxeur rentrerait sur un ring, décidé à en découdre et galvanisé par une foule tout acquise à sa cause. George Bush le savait, ce discours devant l'Amérique tout entière était sans doute le plus important de sa carrière politique. Il lui faudrait à la fois rassurer et contre-attaquer, se comporter en président, mais aussi en chef de guerre.
Notre peine s'est transformée en colère, et notre colère en détermination. Que nous livrions nos ennemis à la justice, ou que nous fassions justice nous-mêmes, justice sera faite.
L'heure est venue d'engager des représailles et d'exiger de l'Afghanistan des comptes.
Livrez aux États-Unis tous les terroristes qui se cachent sur votre sol. Ces exigences ne sont ni discutables ni négociables.
Deuxième choc pour Amaryllis. En janvier 2002, le journaliste américain Daniel Pearl est pris en otage par des membres d'Al-Qaïda à Karachi, au Pakistan. Elle l'avait rencontrée plusieurs fois quand elle était au lycée à Washington et lors de son séjour en Thaïlande. Le journaliste expérimenté lui avait donné de précieux conseils.
The Wall Street Journal reporter Daniel Pearl, who was kidnapped, has been murdered by his captors.
Après un mois d'une attente insoutenable, les ravisseurs annoncent l'exécution de Daniel Pearl par décapitation.
Depuis le 23 janvier, le visage de Daniel Pearl, long, mince, doux, brun, était connu de toute l'Amérique. C'est à cette date qu'il avait disparu en se rendant à un rendez-vous pour interviewer un responsable de la mouvance islamique. C'était un piège.
Amaryllis apprend la nouvelle par hasard, sur un poste de télé en entrant dans un bar. Comme lorsqu'elle avait 8 ans, après l'attentat de Lockerbie qui avait coûté la vie à son amie Laura, Amaryllis, en état de sidération, décide qu'elle veut comprendre. Elle abandonne son projet de retourner en Thaïlande et s'inscrit à l'université pour un master consacré au conflit et au terrorisme. À Georgetown, à la prestigieuse université de Washington, Amaryllis imagine un projet de mémoire original. Pour essayer de comprendre scientifiquement ce qui amène un groupe humain à s'engager dans la voie du terrorisme, elle rassemble 200 ans de données en rapport avec des attentats. Des données aussi variées que le nombre d'écoles coraniques dans un lieu précis et celui des personnes y vivant en dessous du seuil de pauvreté. Et avec tout ça, elle conçoit un algorithme qui doit permettre, en principe, la localisation de futurs foyers de terrorisme. Efficace ou pas, l'invention d'Amaryllis parvient aux oreilles de deux officiers de la CIA qui demandent à la rencontrer. À la suite de son exploit en Birmanie, Amaryllis avait déjà été approchée à Oxford par des agents secrets, sans doute anglais. Mais l'étudiante, alors, n'avait pas donné suite à ces trucs d'espion. Cette fois, Amaryllis se déclare prête à collaborer. Une histoire de feeling personnel, mais sans doute aussi de contexte. Dans le cadre de sa guerre au terrorisme, George Bush a étendu considérablement le pouvoir et les moyens des services secrets. si la CIA est beaucoup critiquée de n'avoir pas su prévenir les attentats de septembre 2001, dans l'année qui suit, l'agence de renseignement américaine ne reçoit pas moins de 170 000 offres de candidatures spontanées. Et dans l'histoire de la CIA, 2003 sera l'année de la plus importante promotion, composée pour un tiers de femmes. Des jeunes, souvent très diplômés, qui peuvent prétendre à des rémunérations plus élevées dans le privé, mais qui s'engagent à la CIA par patriotisme.
Notre objectif, identifier les trafics de drogue.
Ma recherche informatique sert à empêcher les activités terroristes.
J'aide à découvrir la vérité pour l'Amérique.
En 2002, Amaryllis Fox signe avec la CIA un poste à l'essai, tout en poursuivant ses études. Aujourd'hui encore, le renseignement américain cherche à recruter des jeunes, leur promettant aventures et missions patriotiques, mais aussi, plus terre à terre, de bonnes assurances santé et retraite. On les attire au moyen notamment de vidéos alléchantes réalisées dans le style des séries. Dans celle-ci, par exemple, ils ont même réussi à trouver un comédien qui a la voix et le style de Barack Obama.
Votre plus grande récompense est de savoir que vos efforts serviront à maintenir la sécurité de tous les Américains. Vos réussites, bien qu'inconnues du public, sont vitales pour notre sécurité nationale.
Désormais, Amaryllis Fox ne peut parler à personne de son activité, surtout quand elle reçoit l'habilitation secret défense qui lui donne accès aux informations sensibles. Pour tout le monde, ses parents et son petit copain compris, elle travaille comme consultante à l'international. À une douzaine de kilomètres de Washington, à Langley, Amaryllis découvre le siège mythique de la CIA. Son hall, dallé de marbre gris et blanc, est le fameux Memorial Wall, ce mur où sont gravées des étoiles, chacune en hommage à un agent de la CIA tombé en mission. Affecté comme analyste à la division de l'Asie du Sud-Est, Amaryllis Fox se voit confier la surveillance de la Jemaah Islamiyah, un groupe islamiste indonésien, responsable en 2002 de l'attentat dans une boîte de nuit à Bali qui a fait plus de 200 morts et 200 blessés, parmi lesquels de nombreux Australiens. Grâce aux agents de la CIA, son chef, Ambali, sera arrêté un an plus tard.
Ambali aurait été arrêté par la police thaïlandaise dans ce petit village à 80 km au nord de Bangkok. Celui qu'on surnomme le Ben Laden d'Asie du Sud-Est se cachait là avec sa femme. George Bush s'est félicité de cette nouvelle victoire contre le terrorisme, même satisfaction en Indonésie et en Australie.
Nous sommes heureux que la CIA ait pu mettre la main sur Ambali. Cela démontre l'énorme force des États-Unis et de leurs services de renseignement quand ils se déploient en Asie du Sud-Est.
Ambali serait actuellement détenu et interrogé par les Américains dans un lieu tenu secret. L'Indonésie attend son extradition, mais à Jakarta, comme partout en Asie, on craint déjà des représailles de la Jemaah Islamiyah.
Amaryllis analyse les dépêches classifiées qui tombent sur son écran et guette tout ce qui indiquerait l'imminence d'une nouvelle attaque terroriste. Plus qu'un travail, c'est un véritable sacerdoce, une addiction même. Quittant tard son travail, revenant à l'aube pour fournir un rapport au président des États-Unis, regarder pendant des heures des vidéos de décapitation pour tenter d'y déceler un indice sur la localisation de la scène et l'identité des terroristes. À grands coups de café, Amaryllis lutte contre le sommeil avec le sentiment obsessionnel qu'elle porte le monde sur ses épaules. Mais aussi dur et essentiel soit-il, ce n'est encore qu'un emploi de bureau. Tout change quand Amaryllis Fox, en 2004, obtient son diplôme à l'université. La CIA n'attendait que ce moment pour faire entrer sa jeune et brillante recrue dans le sacro-saint service des agents clandestins. Ceux qui partent à l'étranger sous de fausses identités. Autrement dit, le job le plus dangereux, l'élite de la CIA.
France Inter, Stéphanie Duncan, Espion, une histoire vraie.
En 2004, à seulement 24 ans, l'Américaine Amaryllis Fox, qui vient de terminer ses études, se voit offrir par la CIA d'entrer dans son service le plus prestigieux, le plus dangereux aussi, celui des agents clandestins. « Enfin, se dit Amaryllis, je pourrai voir mes ennemis en face. » Mais pas tout de suite. Pendant un an, elle suit une formation intensive à la ferme, The Farm, un camp d'entraînement ultra sécurisé situé, semble-t-il, à Camp Peary, en Virginie. Mais la CIA a toujours nié son existence.
Nous ne confirmons ni ne nions que nous avons des lieux d'entraînement. Mais il est évident qu'une organisation comme la nôtre a besoin de pratiquer des entraînements de haut niveau pour des opérations de haut niveau. Nous avons des camps d'entraînement. Nous en avons même plusieurs.
À la ferme, Amaryllis apprend tout ce qu'un espion doit savoir. Maniement des armes, entraînement physique, savoir résister à la torture, apprendre à s'orienter dans une nature hostile, à bord d'une voiture, savoir échapper à une embuscade ou d'un coup de pare-choc au bon endroit, envoyer un véhicule ennemi partir en tonneau dans le décor. Le côté Hollywood de l'espionnage existe, mais le plus important, c'est de récolter des renseignements en harponnant les bons informateurs et en protégeant sa couverture. Et tout cela, comme le claironne la pub pour la CIA, au nom de la vérité, The Truth for America. Amaryllis Fox constatera cependant que dans la guerre contre le terrorisme, la frénésie à désigner des coupables passe parfois avant la vérification des renseignements. Amaryllis, avec effroi, découvre par exemple le cas d'un certain Khaled El-Masri, arrêté en Macédoine alors qu'il rentrait chez lui, parce que son nom apparaissait sur une liste noire établie par la CIA. Sans autre preuve que ce nom, porté par des millions de musulmans dans le monde, cet homme, qui clame son innocence, est enlevé par un commando de la CIA et mis dans un avion pour l'Afghanistan. Interrogé, torturé, sans doute dans une des prisons secrètes créées par les Américains, dont l'existence sera révélée en 2005.
Sur ces photos prises par satellite, des bâtiments qui pourraient être une prison de la CIA située en Afghanistan. L'une des prisons secrètes que les services de renseignement américains ont ouvert à l'étranger. C'est le quotidien américain Washington Post qui a révélé l'affaire hier, relayée aujourd'hui par l'organisation humanitaire Human Rights Watch, qui a mené une enquête à partir des registres de vol d'avions affrétés par la CIA.
En suivant les plans de vol de ces avions, nous avons pu constater qu'ils partaient de Langley en Virginie, le siège de la CIA ou d'autres aéroports militaires, qu'ils volaient vers l'Europe pour faire le plein, qu'ils allaient en Afghanistan prendre des prisonniers pour les amener dans d'autres parties du monde.
Des prisonniers membres pour la plupart d'Al-Qaïda et que la CIA voulait pouvoir interroger en dehors de tout cadre légal, un programme de délocalisation de la torture.
Amaryllis découvrira plus tard que le prisonnier Khaled El-Masri sera relâché au bout de 4 mois sans aucun jugement ni explication. Son corps et sa vie brisés. Dans la vie très monacale de Langley, il n'y a pas de place pour l'amour, sauf dans les règles strictes imposées par la CIA. Anthony, le petit copain anglais d'Amaryllis, qui ne sait rien de ses activités, va bientôt le découvrir. À peine a-t-il atterri aux États-Unis pour voir sa chérie, qu'elle l'emmène dans un bureau où, à sa grande surprise, il est prié de passer au détecteur de mensonges. Ensuite, il tombe des nues quand on lui apprend qu'Amaryllis travaille pour la CIA et que tous les deux, ils doivent choisir. Soit ils se marient, soit ils se séparent. Ils décident donc de se marier. Un mariage traditionnel, en grande pompe, à l'église, procession et robe blanche. En réalité, pendant toute la cérémonie, Amaryllis ne pense qu'à une chose, aux Américains pris en otage à Bagdad. Difficile pour n'importe quel couple de résister à une telle pression. Et lorsque Amaryllis disparaît pendant 6 mois pour une mission secrète, à son retour, elle trouve l'appartement vide. Anthony l'a quittée. Amaryllis est triste, bien sûr, mais soulagée aussi. Elle peut se consacrer pleinement à sa nouvelle mission. Depuis l'automne 2001, les États-Unis n'ont qu'une hantise. Qusama Ben Laden, le terroriste d'origine saoudienne, considéré comme le responsable des attentats du 11 septembre, acquiert le secret de fabrication d'une bombe nucléaire et passe ainsi à la vitesse supérieure. Une hantise qui semble trouver un fondement lorsqu'en novembre 2001, juste après le début de l'offensive anglo-américaine en Afghanistan, un journaliste fait une découverte stupéfiante par hasard à Kaboul. France Inter, 15 novembre 2001.
C'est dans une maison abandonnée et pillée du quartier de Karta Parwan, une maison utilisée par l'organisation Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden, qu'Anthony Lloyd, envoyé spécial du Times, a fait cette découverte. Il s'agit de documents en partie brûlés, écrits en arabe, en anglais, en allemand, mais aussi en ourdan, qui expliquent, décrivent, schéma à l'appui, comment fabriquer une bombe nucléaire. Ces documents précisent par exemple comment provoquer la déflagration des explosifs afin de comprimer le plutonium et ainsi entraîner une réaction thermonucléaire. Toujours selon Anthony Lloyd, on y trouve aussi des plans détaillés de missiles, de petites bombes ou bien encore le mode d'emploi de la mise au point d'un super canon. Une découverte qui confirme les craintes exprimées par les dirigeants occidentaux à propos de l'intérêt porté par Ben Laden aux armes nucléaires.
Fin 2001, des experts affirment que Ben Laden est en capacité de fabriquer une bombe équivalente à celle d'Hiroshima. Mais si c'est le cas, comment les terroristes trouvent-ils ces armes et leur mode d'emploi ? Depuis la chute de l'URSS au début des années 90, la sécurité des arsenaux atomiques en Union soviétique et dans les pays de l'Est a été très négligée, parfois même laissée à l'abandon. De quoi susciter la convoitise des voleurs et des trafiquants. En mars 1992, voilà ce qu'on peut entendre par exemple un matin sur France Inter. Une brève, en apparence anodine, coincée en sandwich entre la campagne électorale d'Edith Cresson et l'arrestation de militants du Front National.
À l'étranger, 3 têtes nucléaires destinées à équiper des missiles stratégiques auraient disparu de l'ex-URSS. C'est en tout cas ce qu'affirme un magazine américain citant un général russe. Ces 3 disparitions viennent s'ajouter à celles de 3 armes nucléaires tactiques disparues, elles, d'un arsenal du Kazakhstan.
La CIA soupçonne aussi les terroristes de se fournir au Pakistan, le premier pays musulman à posséder la bombe.
28 mai 1998, le Pakistan procède à ses premiers essais nucléaires dans le désert du Baloutchistan. Islamabad fait une entrée fracassante dans le club très fermé des États nucléaires, salué par le Premier ministre Nawaz Sharif et célébré dans les rues. La commission à l'énergie atomique du Pakistan est alors dirigée par Bashiruddin Mahmoud, un islamiste convaincu. Renvoyé par le président Musharraf pour cause de sympathie excessive pour les talibans, Mahmoud se rend ensuite à Kandahar, en Afghanistan, à l'été 2001. Il y rencontre le Mollah Omar et Oussama Ben Laden.
Abdul Qadir Khan, qui au Pakistan est considéré comme le père de la bombe atomique, le héros national, a été aussi pendant 20 ans le plus important trafiquant de matériel nucléaire. Vendant sa dangereuse marchandise notamment à la Libye, la Corée du Nord, l'Irak et l'Iran. Et peut-être aussi à des organisations terroristes. Pour la plus grande colère des Américains, qui en 2004 réussissent à faire démanteler ce réseau. Mais entre-temps, d'autres trafiquants ont vu le jour. La menace est jugée si forte que le gouvernement américain dans ce domaine alloue à la CIA des budgets illimités. En 2004, Amaryllis Fox est chargée de collecter des renseignements sur les armes de destruction massive, nucléaires, mais aussi chimiques ou biologiques, et d'approcher les trafiquants pour les empêcher de vendre ces armes aux terroristes. La jeune espionne réussit à identifier un marchand d'armes hongrois, un certain Jakab. En se faisant passer pour une acheteuse potentielle, elle va prendre contact avec lui et communiquer d'une manière surprenante, via le dossier brouillon d'une boîte mail dont il partage l'adresse et le mot de passe. Un moyen d'éviter d'envoyer un mail qui risquerait d'être intercepté. À Après plusieurs semaines de messages où l'on dit les choses à demi-mot, ils conviennent d'un rendez-vous dans une ville française, Lyon, sur un quai de la Saône. Drôle d'endroit pour une rencontre entre un trafiquant international et une supposée acheteuse d'armes pour Al-Qaïda. Mais une fois sur place, après quelques échanges, rapidement, l'homme se méfie et s'en va. Amaryllis est furieuse contre elle-même d'avoir laissé filer ce contact qu'elle a mis si longtemps à harponner. Mais quelques jours après, le même Jacob lui adresse un message. Visiblement, le trafiquant a besoin de vendre. Mais désormais, quelle tactique adopter ? Acheter à Jacob toutes les armes qu'il a en stock pour éviter qu'elles soient vendues à des terroristes, surtout si Jacob, comme le soupçonne Amaryllis, possède des têtes nucléaires. En lui achetant ses armes, la CIA pourrait réaliser un double coup, les revendre à Al-Qaïda après les avoir trafiquées pour les rendre inutilisables. Mais l'opération est risquée. La CIA en a déjà fait la mère expérience quand en février 2000, elle a fourni aux Iraniens, via un trafiquant d'armes, les plans truqués du système de mise à feu d'une bombe nucléaire, espérant ainsi les berner. Mais cette opération, dite opération Merlin, a eu l'effet inverse de celui escompté. Les savants iraniens, pas si bêtes, ont corrigé l'erreur et ont même pu améliorer leur technologie nucléaire. Ce fiasco de la CIA fera scandale 6 ans plus tard, quand il sortira dans la presse. Amaryllis Fox va mettre au point une autre tactique. Plus hasardeuse, plus longue à mettre en œuvre, mais plus payante si elle réussit. Recruter Jacob, en faire un allié de la CIA. Pour mener à bien le recrutement de Jacob et celui d'autres trafiquants d'armes, la CIA décide en 2007 d'envoyer Amaryllis Fox en Chine, à Shanghai, très loin des États-Unis, afin de ne pas éveiller les soupçons sur ses activités. Pour la première fois, Amaryllis part vivre en tant que NOC, Non-Official Cover, une agente clandestine qui vit illégalement dans un pays étranger, sans aucune protection diplomatique en cas de pépin, avec une activité professionnelle fictive. Officiellement, Amaryllis est une marchande d'art en quête d'œuvres d'artistes émergents. Une couverture qui lui permettra de voyager dans toute l'Asie. Pour ce grand saut dans l'inconnu, l'espionne de 27 ans part avec son nouveau mari, Dean, qu'elle a rencontré pendant sa formation. Un agent de la CIA, lui aussi, mais du service Action, qui a beaucoup baroudé en Afghanistan. Entre Amaryllis et Dean, s'est nouée une drôle de relation, faite d'affection, à défaut d'amour, de confiance mutuelle. Chacun sait qu'il ne faut pas poser de questions sur les activités de l'autre, mais où la réussite de la mission prime sur tout. Même quand ils sont chez eux à Shanghai, ils doivent nuit et jour faire semblant. La CIA en effet les a prévenus, votre maison sera truffée de caméras et de micros. Ayez des relations sexuelles régulières, mais pas trop. Surtout, ne montrez pas que vous vous savez surveiller. Et la femme de ménage, que les autorités chinoises leur ont choisie, est là, elle aussi, en permanence pour surveiller ce couple d'étrangers. Mais au milieu de tout ce mensonge, quelque chose d'un peu plus vrai est en train de grandir. Amaryllis attend un enfant. Au bout de quelques mois, l'espionne réussit à convaincre Jacob de collaborer avec la CIA. Contre une forte rémunération et la promesse qu'il sera protégé, le trafiquant d'armes s'engage à donner à Amaryllis les noms de ses clients, l'informer du matériel qu'il recherche. Une grande victoire pour Amaryllis. Mais tous les marchands d'armes ne collaborent pas. C'est à la même époque, en 2008, qu'un trafiquant d'armes russe de très haut vol, Viktor Bout, est arrêté en Thaïlande. Cet ancien militaire soviétique s'était reconverti en trafiquant d'armes à la chute de l'URSS. Il écopera de 25 ans de prison lors de son procès en 2012 à New York.
Viktor Bout, un trafiquant d'armes sans tabou. C'est le constat dressé par l'accusation qui a recensé la liste impressionnante des missiles, fusils d'assaut et munitions qu'il aurait été prêt à vendre pour tuer des Américains. Viktor Bout est jugé devant un tribunal fédéral à New York. Celui que l'on surnomme le marchand de mort a clamé son innocence. Et pourtant, les faits sont accablants. Il a été arrêté en 2008 en Thaïlande après une traque digne d'un James Bond. Écoutez, filature en tout genre par des agents spéciaux américains qui ont réussi à le faire tomber en se faisant passer pour de faux émissaires des FARC colombiens qui souhaitaient lui acheter tout un arsenal.
Tout un arsenal. Des agents américains qui se font passer pour des Colombiens du FARC. Ingénieux. Amaryllis Fox ne le dit pas, mais peut-être est-elle pour quelque chose dans cette arrestation. Le 1er septembre 2008, Amaryllis donne naissance à une petite fille, Zoé Victoria. Une première pour une agente clandestine de la CIA. Et quelques mois plus tard, l'espionne reprend ses missions, emmenant partout avec elle son bébé, même, on a du mal à y croire, quand elle a rendez-vous avec des trafiquants d'armes. L'avantage d'avoir un bébé avec soi, dit-elle, c'est de pouvoir glisser des documents confidentiels dans le sac de couche. Mais Amaryllis ne peut pas toujours l'emmener. Un soir, elle reçoit sur son portable un message crypté de Jacab, l'informant qu'un attentat se prépare au Pakistan. Al-Qaïda s'apprêterait à faire exploser à Karachi une bombe radiologique, un mix d'explosifs classiques et d'uranium d'une grande puissance radioactive. Amaryllis doit donc partir d'urgence pour empêcher l'attentat. Pour la première fois, elle quitte son bébé, lui dit au revoir sans savoir si elle reviendra, et elle s'envole pour Karachi. Grâce à son contact, elle doit rencontrer des représentants de groupes djihadistes proches d'Al-Qaïda, des hommes a priori hostiles à une attaque qui peut tuer des civils musulmans. Un rendez-vous avec des inconnus en plein centre de Karachi. Comment ne pas penser au guet-apens tendu dans la même ville à Daniel Pearl en 2002 qui avait conduit à son enlèvement puis à sa mort. C'est donc la peur au ventre qu'après un long périple, Amaryllis Fox est conduite dans un appartement où sont réunis des hommes barbus. Une femme en burqa la fouille, passe autour d'elle un détecteur de métal et lui retire son téléphone. Un détail surprend Amaryllis. L'homme, visiblement le plus important de l'assemblée, tient dans ses bras un bébé. Un bébé qui tousse. Entre Amaryllis et le père de l'enfant commence une discussion tendue où notre héroïne n'a pas droit au faux pas. À mots feutrés, elle tente de convaincre son interlocuteur d'annuler cet attentat qui tuera des civils innocents. Alors que le bébé tousse de plus en plus fort, Amaryllis sort de son sac un flacon d'essence de clou de girofle qu'elle utilise pour l'asthme de sa fille et le donne au djihadiste, visiblement inquiet pour la santé de son enfant. Que penser de cette scène? Du sentimentalisme de scénario à l'américaine? En tout cas, Amaryllis Fox le raconte dans son livre, quand elle rentre le lendemain à Shanghai, elle reçoit un message qui l'informe que l'attentat de Karachi n'a pas eu lieu. En 2010, Amaryllis Fox se sépare de son mari et démissionne de la CIA. Lasse des mensonges et du faire-semblant. C'est son bébé, dit-elle, qui lui a appris à se battre en tombant les masques. Lasse aussi sans doute du danger, et peut-être dégoûtée par les révélations sur les pratiques illégales de la CIA dans sa guerre contre le terrorisme. Mais dans son livre, le sujet n'est évoqué que rapidement. En tout cas, la jeune fille qui, au lendemain du 11 septembre 2001, s'était lancée à corps perdu dans la guerre contre les terroristes, milite aujourd'hui pour le dialogue et pour la paix. Son histoire sera bientôt adaptée dans une série télé. Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter.